J'aimerais vous proposer la lecture de trois versets dans la lettre de Jacques au chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 12. Jacques chapitre 1 verset 12. Nous lisons ceci. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Voilà un passage de la Bible qui parle de quelque chose que nous connaissons tous très bien, n'est-ce pas? S'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas la tentation, qui lève sa main, on est entre nous, il ne sera pas exclu. Apparemment, ça concerne tout le monde. C'est vrai que la tentation est une réalité, elle est bien présente à chaque instant dans la vie de nous tous. Tout au long de notre vie, nous sommes tous, à un moment ou un autre, tentés. Les manières et les formes de la tentation peuvent varier, n'est-ce pas? Mais pas le fond. La tentation touche aussi tous les domaines de notre vie. L'intégrité et l'honnêteté, la pureté personnelle, la fidélité envers son conjoint, etc., etc., etc. Alors, j'ai noté quelques exemples. Je vais juste prendre deux exemples. Je sors de chez moi pour prendre mon courrier dans la boîte aux lettres. Je suis peut-être encore en pyjama. Je ne sais pas, peut-être le facteur passe très tôt chez moi. Il y a un coup de vent qui ferme la porte derrière moi et je n'ai pas la clé pour ouvrir la porte. Comment je vais faire? Je demande à un voisin d'appeler le serrurier. Le serrurier enfonce la porte là, hein, et tout le reste. Je ne sais pas, peut-être le facteur passe très tôt chez moi. Il y a un coup de vent qui ferme la porte derrière moi et je n'ai pas la clé pour ouvrir la porte. Comment je vais faire? Je demande à un voisin d'appeler le serrurier. Le serrurier enfonce la porte là, hein, et tout le reste. Je ne sais pas, peut-être le facteur passe très tôt chez moi. Il y a un coup de vent qui ferme la porte derrière moi et je n'ai pas la clé pour ouvrir la porte. Comment je vais faire? Je demande à un voisin d'appeler le serrurier. Le serrurier enfonce la porte là, hein, et tout le reste. Je ne sais pas, peut-être le facteur passe très tôt chez moi. Il y a un coup de vent qui ferme la porte derrière moi et je n'ai pas la clé pour ouvrir la porte. Comment je vais faire? Je demande à un voisin d'appeler le serrurier. Le serrurier enfonce la porte là, hein, et tout le reste. Je ne sais pas, peut-être le facteur passe très tôt chez moi. Il y a un coup de vent qui ferme la porte derrière moi et je n'ai pas la clé pour ouvrir la porte. Comment je vais faire? Je demande à un voisin d'appeler le serrurier. Le serrurier enfonce la porte là, hein, et tout le reste. Je ne sais pas, peut-être le facteur passe très tôt chez moi. Il y a un coup de vent qui ferme la porte derrière moi et je n'ai pas la clé pour ouvrir la porte. Comment je vais faire? Je demande à un voisin d'appeler le serrurier. Le serrurier enfonce la porte là, hein, et tout le reste. En tant que chrétien honnête, ou est-ce que je fais ce que le serrurier vient de me dire? Peut-être pas tous les serruriers le disent, hein, mais quelques-uns le diront, n'est-ce pas? Est-ce que je fais payer l'assurance à ma place? À notre exemple, je travaille dans un milieu où il y a des enseignements bibliques, de l'enseignement du Seigneur concernant la fidélité dans le foyer, dans le couple, la pureté sexuelle, en me disant que peut-être cet enseignement n'est plus adapté à nos jours, hein, ça appartient à une autre époque. Où est-ce que je coupe court à toute relation ambiguë avec cette personne qui reçoit son salaire à la fin du mois dans une enveloppe, un chèque, avec le bulletin de paye. Or, il y a 500 euros de plus. Dans le bulletin de paye, il n'y a pas eu d'augmentation. Il encaisse le chèque et il ne dit rien. Alors la secrétaire, la comptable lui dit, mais le mois dernier, vous avez reçu 500 euros de plus et vous n'avez rien dit, vous avez encaissé le chèque. Cette fois-ci, on a retiré les 500 euros. Alors la réponse de cet ouvrier était celle-ci. Moi, je suis venu parce que, bon, si vous vous trompez une fois, ça va, mais vous trompez deux fois de suite, ça non, hein, ça non. C'est inadmissible. L'apôtre Paul dit que la tentation est une expérience commune à tous les êtres humains. Personne n'échappe à la tentation. Même Jésus a connu la tentation. Nous avons dans les évangiles, n'est-ce pas, le récit des tentations de Jésus. Et dans une société aussi laxiste et permissive que la nôtre aujourd'hui, les tentations diverses et variées ne manquent pas. Il est donc important, je pense, d'être attentif à ce sujet de la tentation, savoir surtout ce que c'est que la tentation, connaître son origine et voir ce que la Bible nous dit, ce que la Bible nous présente comme, on pourrait dire, des mesures préventives, n'est-ce pas, pour surmonter la tentation. Il faut prendre la tentation au sérieux, je pense, car peut-être qu'on n'est pas toujours conscient, mais beaucoup de vies ont été ruinées, détruites même, à cause de la tentation, à cause d'un manque de vigilance vis-à-vis de la tentation. Je me rappelle, quand j'étais à Sens, j'avais invité un musicien, un grand musicien. Un musicien, j'avais été plusieurs reprises chez lui, j'avais participé à des concerts qu'il avait donnés, c'était un bon musicien. Et en plus, son témoignage était très fort. J'avais même contacté la mairie pour que la mairie nous prête la grande salle de l'opéra, parce qu'il méritait vraiment une grande salle en ville pour donner son spectacle. Or, quelques jours avant le concert, je reçois une lettre de sa part me disant qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il était gravement malade. Et il me disait qu'il avait fait des analyses sanguines, n'est-ce pas, qui ne révélaient rien de bon. Il avait tout simplement attrapé le sida. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Il y a des tentations qui ne pardonnent pas. Notre capacité à comprendre et à surmonter la tentation, grâce surtout à la puissance de Dieu en nous, parce que par nous-mêmes, c'est parfois difficile, je crois que notre capacité donc à comprendre ce sujet-là a une importance capitale pour chacun de nous, pour notre progression dans la vie chrétienne, mais aussi pour notre protection. Les avertissements que la parole de Dieu nous donne sont aussi pour notre protection à nous, pour notre protection à chacun de nous. Alors voyons la signification du mot « tentation ». N'importe quel dictionnaire vous dira que la tentation est l'attrait vers une chose défendue, un mouvement intérieur qui incite au mal. Voilà ce que le dictionnaire dit. La Bible, quant à elle, utilise un mot grec, le mot « perasmos », qui a une double signification. D'abord, l'épreuve ou le test que Dieu nous soumet dans le domaine de la foi. La Bible donne plusieurs exemples. Elle parle d'Abraham, de Moïse, de Joseph et de beaucoup d'autres, n'est-ce pas, dont la foi a été mise à l'épreuve par le Seigneur. Nous lisons dans la Bible que lorsqu'Israël est arrivé à la terre promise, Dieu a décidé de ne pas retirer les autres peuples du pays de la terre promise, n'est-ce pas, du pays de Canaan, mais de les laisser pour mettre à l'épreuve Israël. On trouve ce passage, par exemple, dans Juges, chapitre 2, verset 22. Il y en a d'autres. Et toutes les expériences vécues par Israël ont été finalement des épreuves qui ont contribué à la formation spirituelle du peuple de Dieu et qui nous servent d'exemple à nous aussi, nous dit l'apôtre Paul. L'épreuve a pour objectif de prouver la réalité de notre foi et de nous faire sortir fortifiés, purifiés, de faire de nous des chrétiens matures, adultes, avec une foi solide. Dieu l'utilise pour la réalisation de ses projets et donc pour notre propre bien à nous. C'est au travers de l'épreuve qu'il met en évidence la foi et l'intégrité du croyant, qu'il développe certains traits, dont ce trait de caractère dont parle Jacques, n'est-ce pas, la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience, dit-il au verset 3. Et les apôtres font souvent référence aux diverses épreuves auxquelles le Seigneur nous soumet. C'est le cas de Jacques qui dit dans ce même chapitre, versets 2 et 3, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Les autres apôtres disent la même chose. Pierre dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Et il dit un peu plus loin que l'épreuve n'est pas quelque chose d'extraordinaire et quelque chose qui fait partie de la vie chrétienne. L'autre signification, celle qui nous intéresse ce matin, c'est cette forte inclination, c'est ce penchant qu'on a à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu pour nos vies. Et donc, contraire à la vie chrétienne, ce penchant à faire finalement ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ou pour employer un terme biblique, cette incitation à pécher, parce que la Bible parle du péché, n'est-ce pas ? Incitation à pécher. Si Jacques envisage l'épreuve dans son sens large de mise à l'épreuve en général, nous l'avons vu au verset 2 et 3, à partir du verset 13, il y inclut aussi son sens spécial de sollicitation à faire le mal. Car il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfant le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Et il se peut qu'au verset 12, les deux sens se retrouvent, celui d'épreuve et de tentation, quand il dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » En tout cas, ce que Jacques nous dit ici, c'est que personne ne doit rendre Dieu responsable à l'égard de la tentation. Dieu est un être saint, parfait, il ne peut être tenté par le mal et il ne tente personne, il n'incite personne à pécher, mais il met parfois notre foi à l'épreuve, il nous met face au choix entre le bien et le mal. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais dans ce cas-là, pourquoi dans le Notre Père, nous prions, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Pourquoi demander à Dieu de ne pas faire ce qu'il a promis de ne jamais faire? Vous savez que les traductions bibliques, c'est un domaine très compliqué, très difficile, et c'est pour cela qu'on a plusieurs traductions bibliques. On dit souvent que traduire, c'est trahir. J'espère qu'en comparant les diverses traductions, n'est-ce pas, on puisse saisir le sens du message biblique, et je pense que c'est possible, en plus avec l'aide de ceux qui ont étudié les langues originales. Et le sens du mot « perasmos », ce mot grec, dépend finalement de son contexte. Et les traducteurs, ils sont attentifs au contexte pour savoir quel mot utiliser, épreuve ou tentation. La Nouvelle Bible Seconde traduit ce verset de manière suivante, « Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. » Le mauvais,
la Bible dit, c'est le diable, c'est Satan, n'est-ce pas, qui tente le peuple de Dieu afin qu'il pèche contre Dieu, se rebelle contre lui, désobéisse à ses commandements. Et c'est lui, c'est de lui, n'est-ce pas, que les disciples doivent se méfier. C'est de lui que les disciples ont besoin d'être délivrés. La Bible du Semeur traduit « Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous de l'esprit du mal, c'est-à-dire du diable. » Donc il y a quelques nuances dans ces traductions. Il y a d'autres traductions. Je vois donc dans cette prière, finalement, une demande pour que le Seigneur nous protège dans l'épreuve. Que le Seigneur ne nous laisse pas emporter vers la tentation, ne nous permette pas finalement de succomber à la tentation, ne permette pas que nous soyons dans une situation où nous ne pouvons pas tenir ferme, n'est-ce pas, contre la tentation. Car la Bible dit bien, le diable, même s'il n'est pas tout-puissant, parce que Dieu est le seul qui est tout-puissant, il est très fort, n'est-ce pas, et nous avons parfois du mal à résister seul à ces tentations. Garde-nous de céder à la tentation. Protège-nous, c'est la prière, le cri du cœur de celui qui sait qu'il a besoin du Seigneur pour le délivrer de l'emprise du péché. Puisqu'on parle du diable, le mauvais, comme dit cette traduction, voyons maintenant l'origine de la tentation. À la base, même si Jacques ne fait pas référence directement à lui dans ce passage que nous venons de lire, il le fera un peu plus tard au chapitre 4, verset 7, lorsqu'il dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». En fait, la Bible nous dit que c'est le diable qui est à l'origine du mal, c'est le diable qui est à l'origine de la tentation. D'ailleurs, dans la Bible, il est appelé le tentateur. C'est lui l'ennemi implacable de Dieu et des hommes. Selon la Genèse, débute par la tentation, n'est-ce pas? Dans le jardin d'Éden, le diable, via le serpent, n'est-ce pas, est venu tenter d'abord Ève, n'est-ce pas? Ève a succombé et elle a donné le fruit. Selon la Genèse, débute par la tentation, n'est-ce pas? Dans le jardin d'Éden, le diable, via le serpent, n'est-ce pas, est venu tenter d'abord Ève, n'est-ce pas? Ève a succombé et elle a donné le fruit défendu. Selon la Genèse, débute par la tentation, n'est-ce pas? Dans le jardin d'Éden, le diable, via le serpent, n'est-ce pas, est venu tenter d'abord Ève, n'est-ce pas? Ève a succombé et elle a donné le fruit défendu. Ève débute par la tentation, n'est-ce pas? Dans le jardin d'Éden, le diable, via le serpent, n'est-ce pas, est venu tenter d'abord Ève, n'est-ce pas? Ève a succombé et elle a donné le fruit défendu. Le diable, via le serpent, n'est-ce pas, est venu tenter d'abord Ève, n'est-ce pas? Ève a succombé et elle a donné le fruit défendu à son mari. Le diable est venu lui dire, mettre des doutes sur... Le diable, via le serpent, n'est-ce pas, est venu tenter d'abord Ève, n'est-ce pas? Ève a succombé et elle a donné le fruit défendu à son mari. Le diable est venu lui dire, mettre des doutes sur... Ève débute par la tentation, n'est-ce pas? Dans le jardin d'Éden, le diable, via le serpent, n'est-ce pas, est venu tenter d'abord Ève, n'est-ce pas? Ève a succombé et elle a donné le fruit défendu. Le diable, via le serpent, n'est-ce pas, est venu tenter d'abord Ève, n'est-ce pas? Ève a succombé et elle a donné le fruit défendu à son mari. Le diable est venu lui dire, mettre des doutes sur... Le diable, via le serpent, n'est-ce pas, est venu tenter d'abord Ève, n'est-ce pas? Ève a succombé et elle a donné le fruit défendu à son mari. Le diable est venu lui dire, mettre des doutes sur les paroles que Dieu avait prononcées, de ne pas manger à son mari. Le diable est venu lui dire, mettre des doutes sur les paroles que Dieu avait prononcées, de ne pas manger du fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a mis en doute même les conséquences de l'ordre que Dieu avait donné. 30 jours de jeûne. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait avec nous. Il se sert souvent de nos besoins légitimes pour nous conduire au péché, n'est-ce pas, pour nous tenter. En plus, il a utilisé la parole de Dieu. Ça montre qu'il est capable, il connaît aussi la parole de Dieu, il est capable de manipuler la parole de Dieu pour souvent dire le contraire de ce que Dieu, le diable n'existe pas, alors que c'est lui qui opprime les gens physiquement, moralement et spirituellement. Jésus dit qu'il est, je cite le texte, meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, résistez-lui avec une foi ferme, nous dit Pierre. Mais vous avez peut-être remarqué que dans notre passage de ce matin, Jacques présente la tentation et le péché en termes, on pourrait dire, en termes biologiques, en termes de conséquences, la mort. Selon lui, c'est la convoitise, n'est-ce pas ? La convoitise antérieure à nous-mêmes qui est à la base de tout. C'est elle qui conçoit et qui enfante le péché. La première étape, donc, c'est ça. C'est, on pourrait dire, le désir de convoitise. C'est intéressant de voir cette liste, n'est-ce pas, de péchés que le Seigneur cite ici. Et je fais remarquer que ce n'est pas simplement les péchés d'ordre sexuel, parce que dans notre monde occidental, souvent on met l'accent sur ça. Péché d'ordre sexuel est au milieu de beaucoup d'autres, n'est-ce pas ? De beaucoup d'autres. C'est les mauvaises pensées, c'est les meurtres, c'est les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil. Et il y a d'autres passages qui ajoutent encore d'autres, n'est-ce pas ? D'autres listes de péchés, comme l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, l'ivrognerie, les excès de table, etc. Voilà donc ce que la convoitise, les dégâts que la convoitise peut faire dans nos vies, n'est-ce pas ? Les dégâts que la convoitise peut faire dans nos vies. Il faut peut-être quand même préciser une chose à propos des désirs. C'est que nous avons des désirs naturels qui nous ont été donnés par le Créateur, des désirs qui sont tout à fait normaux, sont tout à fait normaux. Ils nous ont été donnés par Dieu, n'est-ce pas ? Sans eux, nous ne pourrions pas vivre, en tout cas, nous ne pourrions pas fonctionner d'une manière tout à fait normale. Par exemple, ce désir de vouloir manger et boire. Tout à l'heure, on sortira de l'église. Pour ceux qui ne jeûnent pas, sans doute, ils vont manger, n'est-ce pas ? C'est une nécessité, c'est un besoin même fondamental de pouvoir manger, parce que si on ne le fait pas, si on ne mange pas, si on ne boit pas, on meurt au bout de quelques jours. Celui de vouloir se reposer, de dormir, c'est aussi un désir et un besoin fondamental. Et ainsi de suite pour beaucoup d'autres désirs et beaucoup d'autres besoins qui sont tout à fait normaux. Ils nous ont été donnés par le Seigneur. Il y a tout un tas de désirs légitimes, naturels, qui ne sont pas mauvais en eux-mêmes, car ils nous ont été donnés par Dieu. Par contre, ce qui est mauvais, c'est lorsque nous satisfaisons ces désirs légitimes en dehors du cadre prévu par le Créateur. Oui, là, le problème commence, n'est-ce pas ? Lorsque nous essayons de satisfaire ces désirs à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. S'il est normal de manger, la Bible nous dit que tomber dans la gourmandise est un péché. J'avais dans ma famille élargie quelqu'un qui avait à peu près ma taille et qui pesait entre 120 et 130 kilos. Mais j'ai remarqué que quand nous allions en vacances au Portugal, cette personne, chaque fois qu'on passait devant une pâtisserie, hop, elle succombait, elle ne pouvait pas s'arrêter. Il fallait qu'elle achète des gâteaux et des gâteaux bien sucrés. Normal qu'elle ait des problèmes, n'est-ce pas, de ce genre-là. La Bible ne condamne pas le manger et le boire, mais les excès de table sont condamnés, nous venons de le voir, n'est-ce pas ? S'il est normal de dormir, ne pas se lever le matin pour aller accomplir ses devoirs, pour aller au travail, c'est de la paresse, et la Bible condamne la paresse. S'il est normal d'avoir des désirs d'ordre sexuel, tomber dans la débauche, dans la fornication, dans l'adultère, n'est-ce pas, nous venons de le voir, c'est condamné par la Bible parce que Dieu n'a pas prévu cette utilisation, l'utilisation du sexe de cette manière-là. La tentation commence toujours par un désir, parfois un désir légitime, mais qui se transforme plus tard finalement en désobéissance à Dieu, et on pourrait même dire en cauchemar, parce que souvent ça se termine en cauchemar. Donc, il nous faut prendre garde, nous entraîner à faire quelque chose que la parole de Dieu nous demande de faire, à être vigilants, n'est-ce pas ? Faire gare à nos désirs, gare à nos pensées. La deuxième étape, c'est la tromperie. Je vois que le temps avance vite, on va essayer d'avancer un peu plus vite. La tromperie, nous dit Jacques. Et pour nous le faire comprendre, il utilise deux illustrations, comme je disais tout à l'heure, qui appartiennent finalement au domaine de la chasse et de la pêche. Les mots grecs qu'il emploie ici, qui sont traduits par « attirer » et « amorcer », chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, sous-entendent l'idée de garnir d'un appât un piège et de poser un leurre sur un hameçon. Cela veut dire que la tentation n'apparaît jamais à nos yeux comme étant ce qu'elle est réellement. Souvent, elle est embellie, n'est-ce pas ? Il y a un très beau paquet autour, très beau cadeau. Le pêcheur, avec accent circonflexe, lorsqu'il va à la pêche, ce qu'il veut, c'est d'attraper des poissons. Ce n'est pas de nourrir les poissons, il veut les attraper, n'est-ce pas ? Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il fait ? Il insère dans l'hameçon de sa canne à pêche ce que le poisson aime le plus, c'est-à-dire un ver ou un insecte, n'est-ce pas, qui va attirer le poisson. Et à partir de là, avec ce ver ou cet insecte, il en fait un appât séduisant pour le poisson, parce que c'est ce qu'il cherche. Le poisson ne voit pas qu'il s'agit d'un piège. Il ne voit que le ver ou l'insecte. Il ne voit pas l'hameçon. Il ne voit pas le piège, finalement, dans lequel il va tomber. Il ne voit pas les conséquences désastreuses qui l'attendent, qui vont suivre. Avec la tentation, c'est la même chose. Elle paraît toujours inoffensive. Elle paraît même bonne, agréable. Mais c'est un vrai piège, car elle nous trompe en nous donnant l'illusion qu'elle répondra de manière satisfaisante, n'est-ce pas, et immédiate à nos besoins, en nous faisant oublier les conséquences de nos actions. La tentation nous amène finalement à marcher par la vue, à marcher par la vue plutôt que par la foi en Dieu et en sa parole. La tentation est un piège, la tentation est un leurre qui nous empêche de voir les conséquences de nos actions. La troisième étape, selon Jacques, c'est le passage à l'acte. Le passage à l'acte. Il dit au verset 15, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a été conçue, enfante le péché. » Il emploie un terme que nous employons donc lors de la naissance d'un enfant, n'est-ce pas ? La convoitise conçoit et enfante le péché. Cela veut dire qu'un désir, qui se transforme en convoitise, a comme résultat finalement le péché, la désobéissance à Dieu. Et la dernière étape, c'est les conséquences, c'est la mort. C'est la mort. À la fin du verset 15, nous lisons « Le péché étant consommé, produit la mort. » Produit la mort. Nous péchons pour assouvir notre désir qui devient insatiable, et finalement nous perdons notre communion avec Dieu, car le péché, nous dit la Bible, nous sépare du Dieu Saint. C'est ça la mort. Nous sommes séparés de Dieu. Le salaire, le résultat du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. Et les exemples ne manquent pas. Que ce soit dans la Bible ou dans la vie courante, n'est-ce pas ? J'ai lu quelque part que dans les villages reculés du pôle Nord, les Inuits ont une façon particulière pour appâter et pour tuer les loups. Ils prennent un couteau de chasse, ils recouvrent le tranchant de la lame de sang. Quand le sang gèle, ils recommencent, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de sang gelé sur cette lame. Une fois que la lame du couteau donc est bien recouverte de plusieurs couches de sang gelé, ils plantent le manche du couteau dans la neige et ne laissent que la lame à l'extérieur remplie de sang. Attiré par l'odeur du sang, le loup trouve le couteau et qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à lécher le couteau. L'excite tellement qu'il continue à lécher et il se coupe la langue. Et finalement, il continue à boire du sang, lécher du sang, mais c'est son propre sang. Et l'histoire nous dit qu'il finit par mourir parce qu'il ne se rend même pas compte qu'il est en train de boire son propre sang. Tout comme le loup qui lèche la lame du couteau couverte de sang jusqu'à mourir, n'est-ce pas? Très souvent, nous aussi, nous nous trouvons parfois dans des situations dangereuses lorsque nous décidons finalement, lorsque nous sommes pas assez forts pour succomber aux tentations. L'issue souvent est fatale. Que faire alors pour prévenir la tentation? Le dicton dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? On pourrait même dire qu'il vaut mieux prévenir que mourir, vu cette histoire que je viens de raconter. Car si la tentation semble être normale, Jacques dit « lorsque quelqu'un est tenté », non pas « si quelqu'un est tenté ». Donc la tentation est tout à fait normale. Et la Bible nous dit que la tentation n'est pas un péché. Jésus a été tenté et la Bible nous dit qu'il n'a pas péché, il n'est pas tombé dans le péché. Ce qui est sûr, c'est que nous devons être vigilants. Vigilants. Nous ne devons pas surestimer notre capacité. Comme Samson dans l'Ancien Testament, qui se croyait, il était très fort, mais il se croyait vraiment très fort. Et finalement, il est mort, n'est-ce pas? Il est mort. Ne pas surestimer notre capacité à résister, mais ne pas sous-estimer non plus la capacité du diable à nous faire tomber. À partir du verset 21, Jacques nous exhorte à rejeter toute souillure, à recevoir avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en nous, et à mettre en pratique cette parole dans nos vies. Pour la mettre en pratique, il faut la connaître, il faut la lire, il faut la méditer. Et c'est notre vie aussi à nous, les chrétiens. Lire la parole de Dieu, nous nourrir de cette parole pour mener une vie chrétienne agréable au Seigneur. La parole de Dieu est une arme efficace. D'ailleurs, l'apôtre Paul parle d'elle comme étant l'épée de l'esprit. Nous devons donc nous nourrir nos pensées et nos désirs par la parole de Dieu. Le psalmiste disait « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Il y a donc des solutions qu'on trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est une aide vraiment efficace. Nous avons la prière qui nous permet de rester en communion avec Dieu. « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous », nous dit Jacques. Nous nous approchons par la lecture de la parole de Dieu, par la prière. Nous avons l'appui du Saint-Esprit qui habite en nous. Nous avons les frères et les sœurs, on a parlé de l'Église ce matin, les frères et sœurs, l'Église qui peut nous aider, qui peut nous entourer, qui peut nous soutenir, qui peut prier pour nous. Nous avons là des appuis inestimables qu'il ne faut surtout pas négliger car ils nous permettent d'affronter les tentations sans succomber. Martin Luther disait « Nous ne sommes pas capables d'empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais nous sommes capables de les empêcher de faire leur nid sur nos têtes. » En d'autres mots, nous ne pouvons pas empêcher les tentations, n'est-ce pas, de se présenter à nous, mais nous avons tout ce qu'il faut, nous dit la parole de Dieu, pour pouvoir résister aux tentations. Nous sommes capables de dire non à l'invitation lancée par le diable de désobéir à Dieu. Car nous avons cette merveilleuse promesse de Dieu. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. S'il nous est arrivé de succomber à telle ou telle tentation, là aussi la parole de Dieu nous dit ce que nous devons faire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que le Seigneur bénisse sa parole.